Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, on se prépare donc pour vraiment entendre et recevoir la parole de Dieu. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Le texte que je voudrais prendre pour démarrer ce message se trouve dans Philippiens 3, au verset 13 et suivant. Mais d'abord, je replace juste le contexte. C'est l'apôtre Paul qui fait un petit constat relativement à la fin de sa vie. Et il dit que son ambition la plus grande, c'était de pouvoir expérimenter la puissance de résurrection de Jésus. Et il se rend compte aussi qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas réussi à atteindre par son vivant. Mais il dit quelle est cette démarche. À un moment, il dit au verset 12, « Ne croyez pas que je sois parvenu au but. » Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme, une autre version dit la récompense ou d'autres choses comme ça. La perfection est encore devant moi, je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. Donc restez dans la course, poursuivez votre course, allez-y, continuez, on est là pour s'encourager les uns les autres à arriver à ce but. Et donc au verset 13, il dit cette déclaration, « Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours pour remporter le prix. Voilà ce qu'il nous déclare ici. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de faire des messages sur focaliser sur une seule chose. Des fois, on veut faire 36 000 choses, et puis on réussit plus ou moins bien. Mais vous savez, quand on essaie de faire trop de choses à la fois, des fois il y a des choses qu'on ne fait pas bien, donc il y a aussi des sentiments d'insatisfaction, il y a des sentiments d'échec parce qu'on a poursuivi des buts qu'on n'a pas atteints. Mais par contre, il nous faut des fois focaliser sur une chose. Je veux faire cette chose, je m'y emploie, j'y donne mon énergie et je réussis et là c'est bien. Donc ça c'était un autre message. Des fois on peut en même temps... ce verset, on pourrait l'utiliser pour dire, voilà, l'important c'est ne pas regarder en arrière, mais regarder vers devant. Donc ça serait une autre utilisation. Mais aujourd'hui, je voudrais juste partir de là, de cette expression, je fais une chose, pour dire, il y a des petites choses qui font la différence. Et donc mon titre c'est, les petites choses qui font la différence. Des petites choses dans notre vie, et on va voir un certain nombre. Donc, des choses de tous les jours. Des choses qui semblent des fois insignifiantes, aussi petites que des gouttes d'eau. On a une expression en français qui existe aussi dans d'autres langues, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a des fois cette goutte, cette petite chose qui semble insignifiante, mais qui fait la différence dans notre vie. On passe d'un stade à un autre, des fois dans le négatif. On dit voilà, ça suffit, hein. C'est la goutte qui fait déborder le vase, on s'est contenu pendant un temps, et tout à coup, ça se déverse. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ça peut aussi être valable dans d'autres situations, où on prépare des choses pendant longtemps, et c'est cette chose supplémentaire qui va nous permettre d'arriver dans une réalisation de quelque chose. On l'attendait, et c'est cette chose supplémentaire qui nous fait rentrer dans ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Donc il y a une goutte qui peut faire la différence. J'avais entendu cette histoire que j'ai peut-être déjà eu l'occasion de citer. Je ne sais plus dans quel pays c'était. C'était la coutume que lors de mariage de quelqu'un, chacun des invités apportait une boisson spéciale pour le mariage, et tout le monde mettait ça dans une cruche, un grand vase, et puis donc chacun arrivant apporte ce qu'il devait apporter et le verse dedans. Mais il y a eu des personnes qui se sont dit je vais pas apporter la boisson en question, je vais simplement y mettre de l'eau. Finalement, ça sera dilué, on va rien remarquer. C'est très négatif, hein, c'est très très mauvaise attitude, mais c'est juste pour donner une illustration. Et après, il semble que une fois qu'on ait voulu goûter, ben il n'y avait que de l'eau. Donc c'est juste pour illustrer que si chacun pense ce que je fais n'a pas d'importance, n'a pas un grand impact, ça va se noyer dans la masse, on va rien remarquer, mais si chacun le fait, ça va faire une grande différence. Donc c'est déjà une première leçon pour chacun d'entre nous, ne dévalorisez pas votre impact dans la vie des autres, ce que vous apportez ou ce que vous faites ou les choses que vous faites ou faites pas. Ça a une grande importance et ça fait une différence. On pourrait dire pour d'autres situations, on pourrait trouver beaucoup d'exemples. Je voudrais juste te dire encore que j'ai des amis qui habitent assez loin et on n'a pas le temps de se parler tout le temps, on se voit pas trop souvent non plus. Et alors des fois on raisonne, on se dit oh, j'aimerais bien l'appeler, mais je sais pas si ça va le déranger. Et puis je n'ai pas maintenant une heure pour parler avec lui. Alors finalement on n'appelle pas. Mais si on s'appelait simplement pour 5 minutes pour dire hey, j'ai pensé à toi et prendre quelques nouvelles. Et... Mais des fois il se passe longtemps. Et alors quand on se parle, alors ça prend une heure parce qu'on a plein de choses à se dire. Alors on peut raisonner et vous pouvez le faire aussi en disant mais j'ai pas une heure, j'ai pas tout ce temps. Mais la petite chose, le fait de décrocher le téléphone, d'appeler quelqu'un, de l'encourager, ça peut faire une différence dans sa journée, dans sa vie. D'accord? Et vous pouvez trouver des tas de situations où vous pourrez appliquer ce principe. Et puis, vous savez, quand vous appelez quelqu'un, vous pouvez toujours poser la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je te dérange ou pas? Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire irruption dans la vie des gens. C'est peut-être pas le moment, mais alors c'est pas grave puisque c'est votre ami. Et vous dira, écoute, ça va pas maintenant, mais rappelle-moi plus tard, ou on se donne rendez-vous à un autre moment. Mais ce que je vais vous dire, c'est, on a des fois ce raisonnement du tout ou rien. Parce que j'ai pas le temps de ceci, cela, alors je ne fais pas du tout. Non, peut-être je ne peux pas vous donner un coup de main si vous avez quelque chose à faire pour une journée complète, mais je peux peut-être passer et vous donner un coup de main pour une demi-heure ou une heure. Et ça peut faire une différence. Donc il y a un exemple de petites choses qui a de grands effets. On est toujours dans l'histoire de la goutte qui fait déborder le vase. Gardez à l'idée cette image. Une petite chose qui a de grands effets. Un exemple, c'est, je vais faire attention de bien le prononcer, la procrastination. D'accord ? Ouh, c'est quoi ? C'est quelque chose que vous avez déjà mis en application ou fait des milliers de fois dans votre vie. Ça vient du latin pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie du lendemain. Donc c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Donc c'est une situation, c'est une petite chose, on a l'impression, oh je vais le faire plus tard, c'est pas grave, je vais m'en occuper plus tard ou demain, mais ça a un impact. C'est un phénomène qui n'est, c'est pas juste vous et moi, un individu par-ci, par-là. C'est énorme dans la vie des êtres humains. On estime, je ne sais pas comment ils font, qu'au moins 50% des étudiants sont concernés par ce phénomène de remettre au lendemain. Donc on a appelé ça aussi un retardataire chronique, parce qu'il n'arrive pas à se mettre au travail. Surtout lorsque cela ne lui procure pas une satisfaction immédiate. C'est une petite chose que vous pouvez mettre en pratique ou ne pas mettre en pratique, mais ça a des effets. Vous dites, bon, ça fait rien, je ferai plus tard. Quelqu'un a donné cette réponse à Jésus dans Luc 9, 59. Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. C'est pas la personne qui a dit, tiens, je vais suivre Jésus. Ça, c'est une bonne idée. Non, c'est lui qui l'appelle. Vous voyez, nous, des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu parle encore, etc., j'aimerais entendre sa voix. Là, lui, là, Jésus qui lui dit, suis-moi. Il lui fait une proposition. Et il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Enterrer mon père, ça veut dire rester auprès de ses parents jusqu'à la fin de leur vie. Et après, je te suivrai. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. À un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Une autre version dit, n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire n'a pas les qualifications pour être vraiment dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où il se passe certaines choses selon les lois du roi. Donc, dans cette situation précise, on pourrait chaque fois sortir les mots « Seigneur, moi d'abord ». C'est ça qui va pas. Nous disons que Dieu est Dieu, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on dit « Seigneur, mais moi d'abord ». Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est quelque chose qui est complètement en décalage avec la réalité de ce que Jésus attend de nous. Alors, pour chacun d'entre nous, être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire. Il ne faut pas confondre oisiveté et paresse avec cette situation qui fait simplement qu'on ne sait pas aborder les choses de la bonne façon. Au contraire, un sujet peut être pris d'une véritable frénésie d'activité. Aller faire des courses, entamer le grand ménage de printemps, repeindre des volets, prendre des nouvelles de la grand-mère, faire de la maintenance informatique, tant que celle-ci ne possède pas un rapport avec la tâche qui pose problème. En l'occurrence, notre première tâche, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Vous voyez, si on repousse cette tâche de notre vie et qu'on est actif, hyperactif dans beaucoup d'autres choses, on est quand même décalé par rapport à l'appel du maître. Seigneur, moi d'abord, ça ne va pas. Alors qu'il y a des promesses de la part de Dieu pour nous aider. Cette expression est utilisée aussi par Marcel Proust dans « À la recherche du temps perdu ». Il parle de la façon suivante. « Les difficultés que ma santé, mon indécision, ma procrastination, comme disait Saint-Loup, mettaient à réaliser n'importe quoi, m'avaient fait remettre de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, l'éclaircissement de certains soupçons comme l'accomplissement de certains désirs. » Donc, des choses qui sont toujours repoussées, repoussées. En faisant quelques recherches sur Internet par rapport à ce mot, j'ai vu qu'il était publié un tableau que quelqu'un avait mis 15 ans à terminer. Donc, c'était un artiste, un peintre, il avait travaillé sur ce tableau, mais c'est pas qu'il en avait travaillé pendant 15 ans, c'est pas ça. Il avait mis 15 ans à le terminer, ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, il y a des choses que nous sommes appelés à achever. Nous avons beaucoup de techniques ou de révélations que certains ont eues en analysant le monde du travail qui font comprendre comment des gens peuvent être plus ou moins efficaces. Comme par exemple, reprendre en main plusieurs fois les choses. Un des principes, c'est que certaines choses, prenez-les en main et terminez-les tout de suite et mettez-les de côté. Vous n'y pensez plus, ce n'est pas dans un coin de votre tête, vous dites, faudra que je m'en occupe quelque part, un moment, etc. Vous le faites, vous le terminez, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Ça vous libère de l'énergie, ça vous libère votre esprit, ça vous permet d'agir dans beaucoup de choses. Donc là aussi, il y a des choses, quand le Seigneur vous parle, faites-le. Faites-le maintenant et comme ça c'est réglé. Dites pas, je le ferai plus tard. Donc, Marcel Proust a écrit à la recherche du temps perdu, mais la Bible nous dit de racheter le temps. D'accord ? Il ne faut pas qu'on ait des regrets, oh, j'aurais pu, etc. Un deuxième point concernant toujours les gouttes. J'ai lu cette phrase que quelqu'un m'a envoyée pour vœu du nouvel an. Ce n'est pas le fleuve qui compte, mais les gouttes qui le remplissent. Alors, ça me fait méditer des fois des choses. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Et donc, c'est pas une vérité biblique, mais c'est une base de réflexion, on va dire. Hein. Ce n'est pas le fleuve qui compte, mais les gouttes qui le remplissent. Et je me suis dit, bon, le fleuve, qu'est-ce qu'on imagine, le fleuve? Le fleuve, vous avez peut-être passé près du Rhône ou du Rhin ou de la Seine. Donc, il y a toutes ces grosses masses d'eau. Mais essayez d'enlever l'eau. Qu'est-ce qui reste du fleuve? Vous avez le lit du fleuve. Ça ressemble à rien du tout. Et donc, le fleuve, c'est pas quelque chose en tant que tel. Ce n'est qu'un ensemble de gouttes d'eau qui forment le fleuve. Est-ce que c'est pas un peu la même chose dans notre vie? Que finalement, ceux qui donnent tellement d'importance à notre vie et cette force de l'eau qui coule et toute notre énergie déployée, c'est le résultat de toutes ces petites gouttes. Toutes ces petites gouttes qui font notre vie. Et 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si vous le transposez, vous dites, souvent on fixe notre regard sur quelque chose qui frappe nos yeux. On dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dois toujours rectifier un petit peu quand on dit, oh, ce pasteur, il a fondé une église de 10 000 membres. Les 10 000 membres, ce sont 10 000 individus. Il y a eu des dizaines, des centaines de personnes qui ont prié, qui ont œuvré, qui ont travaillé au quotidien pour que certaines œuvres voient le jour. Donc nous, on voit une grande chose et en réalité, cette grande chose, c'est la somme de toutes les petites choses. Des fois, on dit de toutes les petites mains qui ont travaillé, qui ont fait. Et dans notre vie, beaucoup de choses sont pareilles. Alors, c'est aussi une réaction ou une analyse par rapport à certaines méga-churches dont on parle, les églises super grandes qui ont un grand impact. Et on a l'impression qu'à moins de faire quelque chose de très grand, ça ne sert à rien. Mais non, ce n'est pas ça. Il y a même, j'ai lu une expression en anglais qui dit « overhyping ». Alors, « overhyping », ça veut dire que on essaye de créer l'événement. Venez dimanche, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va vous attendre. Vous allez voir, ça va être formidable. Et on rajoute des expressions encore et encore et encore pour créer cette attitude et cette attente de la part des gens pour quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas du tout contre, hein, mais simplement... La réalité, c'est que notre quotidien n'est pas toujours fait de choses extraordinaires qui frappent les yeux et qui sont quelque chose qui nous impressionnerait à ce point. Mais le résultat de l'action de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose qui est le résultat de tout ce que nous avons fait pendant des années encore et encore. Quelqu'un a dit, à la Pentecôte, il y a eu un message et 3000 convertis. Actuellement, il faut qu'on donne 3000 messages pour qu'il y ait un converti. On parle des fois de la difficulté dans certaines situations à ce que des gens puissent passer à la nouvelle naissance. Mais ce sont les 3000 messages qui construisent notre vie. 3000 messages, toutes ces choses que nous avons lues jour après jour. Nous lisons nos méditations, on lit notre Bible, on reçoit des encouragements, on assiste à un culte. On participe à une réunion de prière. Toutes ces choses construisent notre vie. Ce sont les milliers de conseils et recommandations des pasteurs, parents, enseignants, entraîneurs qui font une différence. Vous le réalisez, ça? On aimerait que le fleuve de Dieu passe dans notre vie, comme des fois comme un tsunami, hein. Un grand bouleversement, cette masse d'eau qui renverse tout, mais un tsunami, c'est assez destructeur. Pour certaines choses, Dieu le fait de cette façon. Ésaïe 59, 19 nous dit « Quand l'adversaire surgira, virgule, pareil à un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Pourquoi j'ai dit les virgules? Parce que des fois, certains ont l'impression de « L'ennemi vient comme un fleuve me submerger. » Ce n'est pas ce que dit la Bible. En fait, la Bible ne dit pas virgule nulle part, puisque c'est en hébreu, ils ne connaissent pas la virgule. Nous mettons les virgules en français pour avoir une meilleure lecture du texte. Alors, si pour vous, l'adversaire surgit pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais vous pouvez aussi lire, quand l'adversaire surgira, l'Esprit de l'Éternel pareil à un fleuve le met en fuite. D'accord? C'est selon que vous êtes orienté. Est-ce que vous dites, oh, l'ennemi me submerge, mais Dieu m'aide? Ou alors, l'ennemi peut venir, mais Dieu va le submerger. Donc, il y a des moments où Dieu vient comme un fleuve. Mais il y a aussi des petites choses qui se passent. Des fois, l'ennemi fait un travail de sape. Alors, travail de sape, une explication technique, c'est pour attaquer une forteresse, par exemple, quand il y a des murs, des remparts très hauts, il arrive qu'on fasse un travail de sape. Ça veut dire que on attaque à la base, même en dessous du niveau des murailles, Et au lieu de lancer des projectiles sur le muraille ou au lieu de les faire tomber par le haut, ben on travaille en bas. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de fondation, tout s'écroule. Donc des fois, l'ennemi, c'est aussi ça qu'il fait dans votre vie. Vous avez un chrétien qui connaît un échec ou sa vie spirituelle s'écroule, mais des fois, c'est parce que pendant des années, il y a eu un travail comme ça qui a été fait par l'adversaire. On n'a pas pris garde. Et ça fait référence aussi à un verset très connu dans le Cantique des Cantiques. Il nous est dit qu'il nous faut attraper les petits renards qui dévastent les vignes. Il y avait des murailles de protection aussi autour des vignes en Israël, mais il y avait des petits renards qui arrivaient à se faufiler au travers de cette protection. Donc pour nous, ça peut être un peu ça aussi. Alors quelles peuvent être ces petites gouttes, toutes ces petites choses que vous pouvez faire ou ne pas faire dans votre vie spirituelle? C'est à vous de les trouver. Moi, je peux vous donner des illustrations, mais en réalité, ce sera à vous de voir. Travaillez sur vous-même, faites un petit check-up, un bilan, de dire combien de temps je passe à prier, combien de temps je passe à lire la Bible, combien de temps je passe à méditer. Vous savez, la méditation, on a dit qu'est-ce qu'on pouvait oublier ou se rappeler, mais c'est ça la méditation. Qu'est-ce que vous passez en vous? Est-ce que pensez tout le temps à ce qui ne va pas aller, tout le temps aux obstacles qui seront devant vous, ou est-ce que vous avez quelque chose? Si vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de semence, et vous aurez du mal à vous en sortir. Mais, grâce à Dieu, il y a maintenant de multiples façons de pouvoir s'édifier quotidiennement. Il y a maintenant je ne sais combien de méditations quotidiennes qui existent, soit sous forme papier, soit sur Internet. Vous avez par exemple le site Enseigne-moi, vous avez la pensée du jour. Vous dites, moi j'ai pas le temps d'écouter une heure de message le matin, mais vous avez 2-3 minutes, c'est la pensée du jour. Ensuite, vous avez une formule, pasteur j'ai une question, ça dure à peu près 7 minutes. Ensuite, vous avez certaines émissions TV, leur format c'est 25 minutes. Ensuite, vous avez des enseignements de plus d'une heure. Il y a aussi mon fils qui travaillait sur un projet à un moment pour permettre de choisir en fonction du temps disponible. Soit que vous êtes en déplacement, moi par exemple, pour mon travail, ça me met à peu près un quart d'heure pour y aller. Donc, en un quart d'heure, je peux aussi peut-être ne pas découper un message que je vais écouter un quart maintenant, un quart plus tard, un quart ensuite, mais trouver 15 minutes, ça fait peut-être la différence. Et si c'est pas 15, ça peut être 2, ça peut être 7, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est ne raisonnez plus en disant j'ai pas le temps de l'écouter en entier, donc j'écoute rien du tout. J'ai pas le temps de prier une heure, alors ça vaut rien, alors je ne prie pas du tout. Mais au contraire, saisissez chaque occasion. Chaque occasion, c'est comme une petite goutte dans votre vie spirituelle. Et ça enrichit encore et encore. Une pensée dit une parole et mon serviteur sera guéri. C'était la parole de Jésus. Alors, ces choses, il faut les entretenir au quotidien. Quelles choses? Les petites choses. Je ne sais pas quelle est votre règle de conduite, mais en tout cas, chaque fois que je relis Galates 6, au verset 22, je vois ce programme de Dieu. On a parlé tout à l'heure de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. L'Esprit de Dieu produit, voilà les choses que l'Esprit de Dieu produit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Voilà un descriptif de tout ce que l'Esprit de Dieu produit dans notre vie. Donc, je ne sais pas si vous êtes fixé des objectifs pour l'année ou des choses que vous voulez faire, mais la Bible nous donne quelque chose de précis. Ça doit être des objectifs pour chacun d'entre nous, de dire voilà ce que je voudrais qu'il se manifeste dans ma vie. Et vous pouvez travailler à chaque domaine, dire Seigneur, là, j'ai vraiment manqué de patience, aide-moi, ou là j'ai eu une mauvaise réaction, ou là je n'avais pas le cœur à servir. Des fois, l'aptitude à céder, vous voyez, quand on veut tout le temps batailler sur des positions, sur des idées, sur des opinions. Donc, toutes ces choses nous sont indiquées dans la parole de Dieu pour nous aider à davantage expérimenter le royaume de Dieu. Et j'aimerais aussi vous laisser 1 Corinthiens 13 pour votre méditation. Là encore, je lis dans la version amplifiée de la parole vivante. Voilà la manifestation de l'amour telle qu'elle est décrite pour le chrétien. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de façon présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité, se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Donc ça valait la peine de relire ces passages et de réaliser que c'est ça que Jésus voulait dire, parce que quelqu'un est propre au royaume de Dieu. Il se met en route, il veut suivre Jésus. Parce que dans ces descriptions, nous avons la description du Seigneur. On ne peut pas l'imaginer autrement que comme il a été, comme il a marché dans les rues de Galilée, en Judée, dans tous ces endroits où il a été. Et donc, en troisième point, et pour encourager chacun d'entre nous, je voudrais dire, ne méprise pas les faibles commencements. À la multiplication des pains, un disciple a dit, voilà, il y a un petit garçon, il a 5 pains et 2 poissons, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi pour une foule immense comme ça? Mais Jésus l'a utilisé, il l'a multiplié. Donc pour vous aussi, chacun d'entre vous, vous pouvez dire, oui, mais voilà, j'ai raté dans tel ou tel domaine, alors c'est pas grand-chose dans ma vie d'avoir pris une telle décision ou d'avoir fait ça. On ne voit pas peut-être des résultats immédiats. Ne méprise pas les faibles commencements. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans une autre version, il dit toute chose. Si vous avez cette pensée que les choses, les petites choses que vous faites contribuent à votre bien, vous êtes motivé pour ça. Ça sert à quelque chose. Ne méprisez pas les impacts de nos habitudes ou comportements du quotidien. On a l'impression que je le fasse, que je le fasse pas, ça n'a pas une grande différence. Si vous voyez que la journée en cours, peut-être vous avez l'impression que ça ne fait pas une grande différence. Mais en réalité, des bonnes habitudes qui se créent par la répétition des mêmes gestes, jour après jour, ces habitudes, elles forgent notre caractère. C'est comme ça qu'on se développe et Dieu est très intéressé. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi te transformer. Dieu n'est pas tellement intéressé par les choses matérielles qu'on pourrait lui donner. Un endroit dans la Bible, il dit, mais vos offrandes ne m'intéressent pas. Je ne mange pas vos sacrifices d'animaux. C'est pas ça qui est important pour moi. L'or et l'argent sont à moi. Tout ce qui est sur la terre entière est à moi. Dieu nous aide directement. Donc, vous avez des faibles commencements peut-être, mais il est impliqué directement. Dans 1 Pierre 5, 10, il nous est dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, ça demande un peu de souffrance des fois. Il faut y aller aussi. Hein, des fois, il faut lâcher certaines choses pour en gagner d'autres. C'est pas toujours facile. Des fois, on commence quelque chose de nouveau et au bout de quelques jours, on peut nouveau connaître un échec. Mais il nous est dit, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, les impacts des habitudes et des comportements au quotidien, ils sont dans le positif ou dans le négatif. L'ennemi aussi vous étudie. S'il voit qu'à la moindre difficulté, vous baissez les bras, il va utiliser vos points faibles pour vous faire échouer à chaque fois. Échouer, c'est comme l'image d'un bateau, hein. Un bateau qui a échoué. Vous imaginez le bateau au bord de la mer. Bon, il est sur le sable, maintenant il bouge plus, il est coincé. Échoué. Le bateau ne va plus nulle part. C'est pas, la fonction d'un bateau n'est pas d'être échoué, coincé sur le sable, mais c'est pour pouvoir se déplacer sur l'eau. Et de la même façon, dans votre vie, il y a des moments, si vous avez échoué, vous êtes échoué, vous ne bougez plus, vous êtes comme coincé. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas tout seul. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, on parle des choses, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. J'aime bien le verset suivant que j'ai rattaché. Tout cela vient de Dieu. Ne dites pas, j'arrive pas, ça ne marche pas, ça fait des années que j'arrive et rien qui bouge. Non, tout cela vient de Dieu. Il fait des choses nouvelles dans notre vie. On a cité tout à l'heure déjà Matthieu 6, 33, recherchez d'abord. Vous rappelez que certains ont dit à Jésus, Seigneur, moi, d'abord. Mais ici, Jésus dit, recherchez d'abord, soulignez le mot d'abord, le royaume de Dieu et la justice. Et tout cela, c'est-à-dire entre parenthèses, tout ce qu'il vous faut, toutes ces choses vous sera donné en plus. Alors ma conclusion, c'est quel meilleur moment pour commencer quelque chose de nouveau que la nouvelle année ? Un nouveau job, rencontrer quelqu'un, prendre un nouveau départ, recommencer quelque chose qu'on a arrêté, parce que des fois on est aussi culpabilisé. Ah, oh, j'avais essayé, je m'étais lancé dans tel projet, hop, il a stoppé, mais des fois il peut repartir. Des fois même quelque chose qui est mort, Dieu peut le ressusciter. Et dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse ça veut dire révélation, voilà ce que déclare Dieu, ton Dieu. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Je fais de nouvelles choses dans ta vie. Je renouvelle certaines choses dans ta vie. Je te donne une vie nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore. Apocalypse 21:5. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.